France Culture, il est encore midi et demi. Tout de suite au journal d'Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les cours du pétrole en progression ce matin après un accord surprise de l'OPEP pour limiter sa production de pétrole. Les analystes ne croient pas toutefois une flambée des prix. On reviendra sur cet accord et sur les raisons qui ont conduit les producteurs à s'entendre. Analyse de Jean-Marc Chardon. L'intervention russe en Syrie, Moscou s'indigne à nouveau face aux critiques des Américains et déclare qu'elle va poursuivre ses opérations. Correspondance de Jean-Didier Revoin. Des milliers d'Israéliens qui défilent devant le cercueil de Shimon Peres exposé à Jérusalem. On y retrouvera Étienne Monin. Une partie des sympathisants de gauche se déclare certain d'aller voter à la primaire de la droite, prévue les 20 et 27 novembre prochains. Quelles conséquences pour le scrutin? Commentaire de Stéphane Robert. Et puis les géants du web sont à l'assaut des valeurs éthiques. Google, Facebook, IBM, Microsoft et officialisent la création d'un partenariat pour l'intelligence artificielle au bénéfice, disent-ils, des citoyens et de la société. Décryptage avec Éric Chavroux dans cette édition. Dans la dernière partie donc de la grande table, Olivia Jesbert.
Relire la Révolution avec le philosophe Jean-Claude Milner qui fait paraître ce mois-ci un essai aux éditions Verdier. La relire, ça veut dire la comparer aussi, la scruter, tuer les croyances qui l'entourent et se demander quel sens lui donner aujourd'hui. Nous le ferons à partir de 12h55.
Les valeurs pétrolières flambent donc ce matin en Europe. C'est la conséquence directe de l'accord surprise qui a été conclu hier à Alger entre les pays membres de l'OPEP sur une limitation de leur production de brut au terme d'une réunion de près de 6 heures, plusieurs semaines de tractation. L'OPEP décide donc de ramener sa production à un niveau de 32,5 à 33 millions de barils par jour. C'est une réduction environ d'un million. Il s'agit de la plus grosse réduction de production depuis celle qui avait été décidée juste après la chute des cours durant la crise de 2008. C'est Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour.
On va revenir tout à l'heure sur les raisons qui ont pu pousser les pays producteurs à s'entendre, et notamment l'Arabie Saoudite et l'Iran, parce que c'est ça qui est intéressant sur le plan géopolitique dans cette décision. Mais un mot d'abord, évidemment, sur cette décision, les conséquences. Est-ce que les prix vont vraiment grimper ?
Possible, mais pas certain. Bien sûr, la décision, elle est historique. Bien sûr, elle est inattendue, mais il faut quand même bien voir que l'accord a été conclu à un niveau de production qui est élevé. Vous avez d'ailleurs précisé le montant. C'est à peine le million de barils jour en moins. C'est fort peu sur une production d'un peu plus de 33 millions. Alors, à quoi ça correspond ? Au nombre de barils qui étaient pompés au printemps dernier par le cartel pétrolier. Alors, à cette période, eh bien, le prix du baril se situait autour de 38 dollars contre 47 aujourd'hui. Il serait même bien en deçà donc des niveaux actuels. Sachant que l'on est déjà sur un marché qui est saturé, il n'est pas établi que cela va entraîner une hausse régulière des prix, d'autant plus d'ailleurs que pour parvenir à cet accord, l'Arabie Saoudite a accepté que plusieurs pays, pas seulement l'Iran, mais la Libye, le Venezuela, le Nigeria, soient eux autorisés à produire à leur maximum. Et au-delà, on sait d'expérience que les quotas de production qui ont été instaurés par l'OPEP ne sont pas forcément respectés par ses membres. Les modalités pour chaque pays vont d'ailleurs devoir être débattues d'ici la fin novembre, ce qui signifie qu'il y reste quand même pas mal de marge. Du coup, ce qui semble probable, eh bien, c'est que l'on arrive quand même au moment où s'effectue un retour de balancier qui devrait être long, les prix pouvant repartir, mais sur longue période vers le haut.
Merci beaucoup Jean-Marc Chardon. On est en ligne avec Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. Bonjour.
Bonjour.
Il y a tout un versant évidemment diplomatique dans cette affaire intéressant à décrypter. Comment expliquez-vous que finalement l'Arabie Saoudite et l'Iran aient mis de côté leurs différends pour que cet accord soit rendu possible ?
Écoutez, l'accord, c'est un accord cadre, il n'est pas finalisé, il le sera fin novembre à Vienne. Il n'est pas finalisé, il est très fragile, donc je ne suis pas sûr que le prix du baril va rebondir. D'ailleurs, ce matin, le Brent a cédé 1,5 $ en Asie, et donc c'est un accord en dents de scie, il va falloir finaliser. Ce qui a conduit à la conclusion de cet accord, ou pré-accord, c'est que l'Arabie est en grande difficulté financière. Elle a un engagement militaire, un enlisement au Yémen, l'engagement militaire sur le théâtre du Levant, en Irak, en Syrie. Bref, elle n'a plus les moyens. Il y a aussi une addiction au pétrodollar. L'économie est sous perfusion et l'austérité a été annoncée. Il y a des taxes qui ont été décrétés. Il y a aussi la réduction des dépenses publiques de 20 milliards de dollars par an qui ont été récemment annoncées, il y a 4 jours. Bref, l'Arabie, qui était dans l'addiction, a besoin de respirer et de retrouver un baril beaucoup plus élevé, d'autant plus que le déficit annuel au cours des 2 dernières années s'est élevé entre 90 et 100 milliards de dollars par an.
Antoine Bazouz, vous restez avec nous puisqu'on évoque maintenant la situation en Syrie alors que l'aviation russe poursuit ses bombardements sur les quartiers rebelles d'Alep. Moscou s'indigne à nouveau face aux critiques des Occidentaux et répète que les opérations vont se poursuivre. Pour le vice-ministre russe des Affaires étrangères, la position des Américains s'apparente à un soutien au terrorisme et il faisait référence à une déclaration de John Kirby, qui est le porte-parole du département d'État, qui estimait hier que la Russie avait intérêt à interrompre le cycle de la violence en Syrie car les extrémistes pourraient profiter de la situation pour lancer des attaques contre les intérêts russes et peut-être même contre des villes russes. Nous ne pouvons pas interpréter cela, affirme le ministre russe, comme autre chose que l'actuel soutien de fait de l'administration américaine au terrorisme. On est en ligne avec Jean-Didier Revoin à Moscou. Bonjour.
Bonjour.
Il y a un an maintenant, jour pour jour, la Russie intervenait militairement dans ce conflit syrien. Sa détermination reste entière, on le voit, elle est répétée encore aujourd'hui. Elle semble même se renforcer jusqu'à atteindre quels objectifs, selon vous ?
Alors, officiellement, l'objectif de la campagne antiterroriste qu'a entamé l'armée russe il y a un an, c'est la destruction pure et simple de l'État islamique. Le principal argument invoqué pour justifier l'atteinte de cet objectif auprès de l'opinion publique, c'est d'éviter que les combattants islamiques du Nord-Caucase rentrent en Russie afin d'y perpétrer des attentats. Plusieurs fois par mois, les services russes mènent des opérations dans les républiques du Caucase et annoncent régulièrement le démantèlement de cellules terroristes. Dans le même temps, cette première opération militaire hors des frontières du pays depuis la guerre d'Afghanistan ne suscite pratiquement aucun débat dans l'opinion qui perçoit cette opération, dans laquelle l'armée russe a perdu au moins 21 soldats, un avion de chasse et 2 hélicoptères, comme un conflit plutôt lointain. Les médias russes ne montrent pas d'image de victimes, profitant de la présence de leurs forces sur le terrain pour se joindre aux soldats syriens et montrer comment ils combattent les terroristes avec l'aide de l'aviation russe. Sur le plan géopolitique, Moscou peut donc aujourd'hui se profiler comme un acteur incontournable de la résolution des problèmes, non seulement en Syrie mais dans l'ensemble du Moyen-Orient, faire la promotion de ses dernières armes dont les ventes marchent très bien et opérer ainsi un retour marqué sur la scène internationale. La Russie peut aussi imputer la reprise des combats aux Américains au motif qu'ils ne différencient pas suffisamment l'opposition modérée des terroristes jouant l'indignation face aux accusations occidentales pour mieux répéter que la Russie reste prête à coopérer avec les États-Unis en Syrie.
Jean-Didier Revoin, merci beaucoup en direct de Moscou. Et pendant ce temps, à Washington, le président américain avoue son impuissance. Ça s'est passé lors d'un débat organisé dans une base militaire, retransmis sur CNN hier. On réécoute comment il a justifié sa prudence sur la question.
En Syrie, il n'existe qu'un scénario, hormis le déploiement d'un grand nombre de troupes, qui nous permettrait de faire cesser une guerre civile dans laquelle chaque partie campe fermement sur ses positions. Il ne faut pas oublier non plus que nous devons toujours soutenir le fragile gouvernement irakien et que si nous avons donné les moyens au gouvernement afghan de réussir, nous ne sommes pas au bout du chemin. Donc c'est dans ce genre de situation que vous devez fonder votre jugement sur ce qui est le meilleur pour la sécurité nationale des États-Unis, même si ce que vous voyez vous brise le cœur. L'essentiel en Syrie, c'est que tant que les parties en conflit ne reconnaissent pas qu'elles détruisent le pays et ne s'engagent pas sur la voie diplomatique, franchement, il y a des limites à ce que nous pouvons faire.
Barack Obama, donc cette nuit traduit par notre correspondant Frédéric Carbone. Antoine Bazouz, un mot évidemment sur cette situation en Syrie. Et on voit bien avec ces deux sujets l'asymétrie des engagements russes d'une part et américains d'autre part.
C'est vrai qu'on peut confondre le président américain avec le président de la Croix-Rouge internationale. Avec ses propos, il avoue l'impuissance de l'hyperpuissance américaine. Cette analyse aurait pu être faite par Vladimir Poutine il y a un an en croisant les bras et en laissant Assad perdre. Or, Poutine a construit une alliance avec les Iraniens, avec Assad, pour projeter des forces sans prendre trop de risques et pour écarter l'opposition, pas forcément l'opposition de Daesh, mais aussi, surtout, l'opposition modérée qui menaçait le régime d'Assad. En fait, il y a un duel entre un ancien colonel du KGB qui est très fort en termes de manœuvre, qui ne recule devant rien, qui est nostalgique aussi de l'Union soviétique, et un avocat américain qui s'habille élégamment, qui sait sourire, qui est beau parleur, mais qui n'a pas les nerfs solides, qui n'a pas le caractère d'un chef d'état-major et qui s'impose et qui soit crédible. Voilà, c'est ça la situation en Syrie.
Et dans ces conditions, comment est-ce qu'on pourrait imaginer un état de la Syrie après la fin de cette guerre ?
D'abord, il y a 4 mois de très grands dangers. Ce sont les mois qui nous séparent de l'arrivée d'un futur président ou présidente à la Maison-Blanche et qui sont mis à profit par Vladimir Poutine pour imposer un fait accompli, c'est-à-dire le Kurdistan syrien, l'Alaouistan élargi sous la présidence d'Assad et un certain Sunnistan plus tard. Et pour la Russie, ils ont une idée, c'est la fédération syrienne dans laquelle il y aurait une partition de la Syrie au nom d'une fédération. C'est ça le plan russe que personne ne peut arrêter, d'autant plus qu'il est adossé à l'allié iranien et à toutes les milices chiites de la région que Téhéran a dépêchées pour soutenir le soldat Assad.
Merci beaucoup Antoine Bazbous pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. Merci d'avoir accepté notre invitation. On reste aux États-Unis puisque pour la première fois en 8 années de pouvoir, Obama a voulu son veto repoussé par les parlementaires. Le Congrès américain a en effet rejeté le veto présidentiel sur une loi qui autorisait les proches des victimes du 11 septembre à poursuivre l'Arabie Saoudite. C'est un vrai camouflet pour le président qui s'était opposé à ce texte, qui invoquait la sécurité nationale, notamment Nabil Amel. Quel est l'enjeu de cette bataille interne et aussi les conséquences possibles de ce vote?
Alors d'abord, il fallait 67 voix au Sénat pour annuler ce veto. Il en a eu 97, vote suivi par celui majoritaire également de la Chambre des représentants. Autre remarque, ce n'est pas le choix d'un seul parti. Les deux plus farouches défenseurs du projet JASTA, traduisé par justice contre les sponsors d'actes terroristes, les deux initiateurs donc de ce texte sont le sénateur démocrate de New York, Charles Schumer, qui a dit vouloir enfin offrir aux 3000 victimes du 11 septembre un peu de justice, et le sénateur républicain du Texas, John Cornyn. Le texte était en discussion depuis plus de 6 ans, c'est-à-dire depuis la présidence d'Obama, mais le chef de l'exécutif américain n'a pas manqué de signaler la coïncidence du rejet de son veto. C'est une erreur, disait-il hier sur CNN. C'est à ses yeux un vote politique de parlementaires qui jouent beaucoup leur réélection le 8 novembre. Quant aux conséquences, elles ont d'emblée été exposées hier par le chef de la Maison-Blanche et par le chef de la CIA. Pour eux, cette loi pourrait exposer les sociétés, les militaires, les responsables américains à des poursuites judiciaires et pourrait nuire aux alliances américaines avec des pays étrangers. Et même si les rapports entre Riyad et Washington ont connu ces derniers mois des périodes de froid, les États-Unis restent des alliés stratégiques de l'Arabie Saoudite. Le journal saoudien Okaz titre ce matin sur une loi de l'injustice, mais pas de réaction officielle pour le moment à Riyad. On rappelle que 15 des 19 auteurs des attentats du 11 septembre étaient saoudiens, sans que l'implication officielle de l'Arabie n'ait été démontrée. En tout cas, 28 sénateurs américains s'emploieraient actuellement à demander aux auteurs de la loi JASTA d'en atténuer les conséquences, probablement pour préserver l'avenir des relations avec l'Arabie, quel que soit le futur locataire de la Maison-Blanche.
Nabila Amel, merci. Des milliers d'Israéliens qui défilent depuis ce matin devant le cercueil du prix Nobel de la paix, ancien président Shimon Peres, déposé sur le parvis du Parlement. Défilé qui va se poursuivre donc jusqu'à ce soir, avant les funérailles demain, auxquelles assisteront des dizaines de dirigeants étrangers, dont Barack Obama, mais aussi l'ancien président Clinton, le président français François Hollande et aussi le président allemand. Étienne Monin, vous êtes sur place donc devant la Knesset. Dans quelle ambiance se déroule cet hommage populaire?
Cette journée d'hommage symbolise, c'est ce qu'on ressent en tout cas lorsque on est devant ce parterre et le passage des gens. Le passage de Shimon Peres dans l'histoire, elle a lieu sous un soleil cuisant, sous très haute sécurité, avec un périmètre installé autour de la Knesset dans lequel aucune voiture ne peut rentrer, avec un flux continu d'anonymes qui arrivent à pied, en famille, en couple. Il y a beaucoup d'enfants, certains viennent d'école, d'autres appartiennent aux jeunesses travaillistes ou aux scouts. 3 d'entre eux eux ont été amenés par leur maman pour leur montrer, dit-elle, l'exemple d'un homme qui s'est engagé pour l'État avec persévérance et courage. Dans cette foule, presque toutes les personnes interrogées représentent le camp de la paix. Elles citent l'engagement de l'ancien président. Elles s'interrogent maintenant sur ce qui adviendra de son héritage à un moment où la gauche en Israël tombe de plus en plus bas dans les enquêtes d'opinion. Mais on peut aussi croiser des partisans de la colonisation qui se sont opposés aux accords d'Oslo, mais qui tiennent à rendre hommage à l'homme d'État qui a beaucoup fait pour l'État d'Israël. Avant ce défilé des anonymes, le président et le premier ministre ont rendu l'hommage de la nation en présence de Bill Clinton, très ému, devant le cercueil recouvert d'un drapeau israélien posé au bout de l'esplanade de la Knesset dont les drapeaux avaient été placés en berne.
Étienne Monin, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Jérusalem. 12h46, on passe à la politique française avec cette primaire à droite programmée pour le 20 novembre, premier tour, qui concentre toutes les attentions. Il apparaît en effet de plus en plus évident que son enjeu pourrait aller au-delà du simple choix d'un candidat pour la droite. Jean-Pierre Raffarin disait par exemple avant-hier que mais l'élection de mai allait se jouer en novembre. Il y a une partie de l'électorat de gauche qui s'interrogerait sur l'intérêt qu'il y aurait à y participer, de l'ordre de 10% selon certains sondages. Perspective qui suscite une polémique entre les deux favoris pour l'instant. Alain Juppé qui y trouve évidemment un intérêt et Nicolas Sarkozy qui redoute l'élargissement de cet électorat. On les écoute successivement sur ce thème. D'abord Nicolas Sarkozy hier à Chantilly et puis Alain Juppé, c'était mardi sur France Inter.
Je ne laisserai personne vous volez cette primaire. Cette primaire, c'est celle du peuple, de la droite républicaine et du centre. Cette primaire, personne ne vous la volera. Si certains veulent être candidats à la primaire de la gauche, qu'ils attendent François Hollande.
Moi, je m'adresse à tous les Français. Je voudrais rappeler ici qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la carte du parti pour aller voter. Tout le monde peut voter. Et si on a voulu des primaires ouvertes, c'est justement pour accueillir tout le monde. Donc, s'il y a des déçus du hollandisme qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus.
Ce sont les primaires ouvertes. Ce sont des primaires de la droite et du centre. Donc, la gauche qui vient départager les candidats de droite, ça vous paraît être dans l'ordre des choses, Alain Juppé?
C'est la liberté des Françaises et des Français que de signer un papier. J'adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Quiconque est prêt à prendre cet engagement est le bienvenu.
Voilà donc pour les deux points vu à la Juppé, c'était avec Patrick Cohen il y a quelques jours. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Alors, cette élection de mai va-t-elle vraiment se jouer sur cette primaire et les électeurs de gauche doivent-ils s'y intéresser?
En tout cas, c'est ce que laisse penser l'état de l'opinion publique à 8 mois du premier tour de la présidentielle. Toutes les enquêtes réalisées depuis des mois placent François Hollande à 13-14% de popularité et d'intention de vote. Et ça ne remonte pas, au contraire, résultat, il apparaît de moins en moins probable qu'il puisse franchir le premier tour de la présidentielle. Et pour l'électorat de gauche, pour une partie en tout cas le plus politisé, il semble de plus en plus vraisemblable que ça se jouera, comme le dit Raffarin, en mai 2017, entre le candidat de la droite et Marine Le Pen. Dans ces conditions, le choix pour cet électorat, c'est maintenant qu'il s'opère au mois de novembre à l'occasion de cette primaire à droite. Et le ressort de cette potentielle mobilisation d'une partie de l'électorat de gauche, c'est la crainte du retour de Nicolas Sarkozy. Ah ça non, surtout pas lui. Ça c'est très fort à gauche. Le rejet, on pourrait même dire... La détestation de Sarkozy n'a pas faibli depuis 2012. Et c'est ce que mesurent les sondages depuis quelques semaines. Il y a entre 8 et 15% selon les enquêtes des électeurs qui se disent sûrs d'aller voter, qui déclarent également se sentir proches de la gauche. D'où, d'un côté, cet appel du pied de Juppé et des juppéistes du fait qu'il occupe un espace politique assez centriste dans la position du rassembleur. Et de l'autre côté, cet agacement de Nicolas Sarkozy, beaucoup plus à droite et beaucoup plus clivant pour lui, les gens de gauche qui viendraient voter à cette primaire seraient des voleurs. Mais attention, il ne faut pas se tromper sur le message qui est envoyé. Il s'agit moins pour Sarkozy d'essayer de dissuader les gens de gauche de venir se mêler à cette primaire que de mobiliser son électorat. Et il s'agit moins pour Alain Juppé d'inciter les gens de gauche à venir voter que d'énerver un peu plus encore son adversaire pour qu'il s'emporte, qu'il proteste, qu'il insulte tout ce qui pourrait lui être contraire. Parce que tous les deux savent pertinemment que le vote de l'électorat de gauche à cette primaire restera relativement marginal. Et puis de toute façon, il sera contré par une potentielle mobilisation quasi aussi importante d'une partie de l'électorat du FN, cette fois en faveur de Sarkozy. Non, tous les deux s'adressent essentiellement à l'électorat de la droite et du centre qui formera le gros des bataillons d'électeurs. Et pour Sarkozy, il s'agit de mobiliser le plus possible le cœur militant qui lui reste en majorité acquis. Et pour Alain Juppé, de stimuler l'anti-sarkozisme à droite. Il y a un grand nombre d'électeurs de droite qui ne veulent plus qu'ils ne veulent plus entendre parler de Sarkozy. C'est particulièrement vrai chez les centristes qui, selon les enquêtes d'opinion, s'apprêtent à voter à 90% pour Alain Juppé.
Stéphane Robert, merci beaucoup. On salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Jean-Claude Milner. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes tenté d'aller voter à cette primaire à droite ?
Personnellement, non. Mais ça, de manière plus générale, ça me pose une question. C'est la question de signer un papier où on dit j'adhère aux valeurs de la droite. On ajoute républicaine, bien entendu, mais les valeurs
quand
de la droite.
Quand on n'est pas de droite, c'est voilà. Ça vous dire.
Et quand on n'est pas de droite, ça pose la question de la valeur qu'on accorde à sa propre signature. Quelqu'un de gauche, une bonne partie de son activité, c'est aussi de signer des textes, de signer par exemple des pétitions. Comment voulez-vous qu'on accorde la moindre crédibilité à quelqu'un qui signe une pétition, par exemple, contre un gouvernement de droite, au nom de valeurs républicaines de la gauche, alors que cette même personne aura signé quelques mois auparavant un papier disant « j'adhère aux valeurs républicaines de la droite ». Il y a, à mon avis, là, quelque chose qui est de l'ordre du jeu d'enfant avec sa propre signature.
Donc c'est assez contemporain le fait que sa signature ne compterait plus puisqu'il s'agirait d'atteindre l'objectif.
Oui,
on se moque un peu de...
Je pense que c'est une forme de machiavélisme ou alors un jeu « si je serais docteur, etc. Ben, » Non, on est adulte.
Voilà, et on vous retrouve Jean-Claude Milner dans quelques minutes pour parler de votre livre « Relire la Révolution » chez Verdier. Merci bien d'avoir fait ce commentaire dans le journal. On passe à l'intelligence artificielle et à ces progrès qui font toujours peur au grand public. D'ailleurs, les géants du web réagissent et se lancent à l'assaut des valeurs éthiques. Ils annoncent un partenariat pour définir de bonnes pratiques. Alors, il s'agit de Google, Facebook, IBM, Microsoft qui officialisent, je cite, la création d'un partenariat pour l'intelligence artificielle au bénéfice des citoyens et de la société. Éric Chavot, quel est leur intérêt à s'intéresser aux bénéfices des citoyens?
Oui, on pourrait appeler ça désormais les GAFIM du très très lourd, vous l'avez dit Antoine, une union inédite pour calmer les esprits et évidemment défendre des intérêts croissants. Peut-être un tournant après toutefois déjà un observatoire de l'intelligence artificielle lancé par l'université Stanford. C'est une réponse spectaculaire aux inquiétudes répétées de figures de la science ou des affaires notamment. Début 2015, le physicien Stephen Hawking, le patron des voitures Tesla et des dizaines de chercheurs avaient ainsi alerté sur les dangers d'une intelligence artificielle mal maîtrisée. Et quelques mois plus tard, Noam Chomsky et Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, avaient entre autres rejoint ce mouvement en lançant une pétition contre les robots tueurs. Les géants du web qui investissent des milliards dans l'intelligence artificielle et bénéficient des meilleurs calculateurs et bases de données veulent donc rassurer. Et cette union à but non lucratif devrait rassembler leurs représentants, mais aussi des chercheurs, des membres d'associations et des spécialistes de l'éthique. Il s'agit de communiquer auprès du grand public pour l'informer et l'écouter dans la plus grande transparence, promettent-ils. Et officiellement, pas question de faire du lobbying ou d'orienter les débats, même s'il a été curieusement annoncé une éducation des gouvernements. 8 engagements sont avancés à travers quelques grands principes, comme le respect des droits humains et de la vie privée, mais rien ne dit que ces GAFIM appliqueront eux-mêmes ce que cette organisation va préconiser, d'autant que ces mastodontes sont en ultra concurrence dans l'intelligence artificielle sur la reconnaissance faciale, par exemple. Et qu'un géant manque à l'appel, pour l'instant, précise-t-on, Apple, sans même parler du chinois Baidu.
Voilà, ça ressemble un peu à une éthique quand même un peu intéressée. Éric Chavroux, merci beaucoup. Une dernière question pour finir ce journal. L'identité doit-elle être souriante ou grave? On attend dans la journée un arrêt de la cour administrative d'appel qui a été saisi par un haut fonctionnaire qui s'est vu refuser sa photo lors d'un renouvellement de passeport parce qu'il ne souriait pas. Il attaque le ministère de l'Intérieur, arguant qu'il est possible de sourire en gardant un visage neutre, puisque c'est ce qui est demandé par la loi. On peut y voir peut-être une fable pour notre époque, Marie-Pierre Véraud.
Une époque marquée par le souci sécuritaire et l'emprise de la technologie interdite de sourire, en effet depuis 2005, et le développement du nouveau passeport européen, intégrant des mesures de biométrie, sauf à perturber les systèmes numériques de reconnaissance faciale, car le sourire altère la position et la structure des yeux, de la bouche et du nez, qui sont les 3 points d'identification d'un visage. La loi le traduit en ces termes. Sur les photos d'identité, la tête doit être droite, le sujet doit fixer l'objectif, il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fermée. Notre sujet souriant adoptait bien cette attitude sur les clichés controversés, mais il souriait, ce qui lui a valu donc d'être recalé par le tribunal administratif qui lui s'appuyait sur la circulaire du 13 janvier 2010, selon laquelle le sujet ne doit notamment pas sourire. Or, c'est une simple note de service, fait valoir son avocat, qui n'a aucune valeur légale. La loi ne se prononce pas sur le sourire et tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais c'est là que le débat se déplace sur le terrain plus philosophique. Que veut dire la loi quand elle stipule qu'il faut adopter une expression neutre? Qu'est-ce qu'une expression neutre? En d'autres termes, le sourire est-il une expression neutre? On a parlé du mystère de la Joconde à la barre et de son mystérieux sourire, neutre ou pas? Des siècles de controverses artistiques n'ayant pas épuisé le débat, le plaignant souriant déduit que ce n'est pas à l'administration de trancher. Puis il a convoqué Barthes et le sourire comme symbole du neutre. À présent, le haut fonctionnaire s'interroge sur l'image de la France. Est-il responsable, écrit-il, dans une France dépressive que les autorités reprochent de sourire aux Français, sauf à souhaiter qu'ils continuent de faire la gueule sur leur papier d'identité, histoire de plomber un peu plus le moral de la nation. Si l'on gagne, espère le haut fonctionnaire, les Français donneront un visage sympathique de leur pays aux frontières du monde entier. Mais Antoine, même si le sourire neutre était reconnu, cela ne ferait pas forcément de nous de joyeux lurons sur nos papiers d'identité. Il faudrait toujours avoir les yeux droits et la bouche fermée. L'avocat du plaignant avoue d'ailleurs que son client, sur les clichés retoqués, arborait une tête de croque-mort avec un léger rictus.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. De quoi sourire avec la météo puisque le soleil est dominant, sauf sur le nord-ouest. Température 22 à 30 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Anne Fauquemberg.